Bon, je vous remercie d'être venu ce soir écouter la première conférence du département santé, dont le thème cette année est « Comprendre et vivre nos dépendances ». Je vous remercie, Jean-Noël, de m'avoir accordé votre confiance et d'animer ces conférences. Il y a plus d'un quart de siècle, j'étais étudiante en médecine et je suivais alors au centre Kierkegaard les conférences animées par M. Bertuca, où les médecins interrogeaient les philosophes. Les questions demeurent, se formule autrement, et nous allons tenter en tout cas de déchiffrer les signes du temps. Nous sommes à l'ère de la multidisciplinarité et nous remercions aussi par avance les intervenants, soignants professionnels et philosophes qui ont accepté de participer à ce cycle. Comprendre nos dépendances, c'est bien sûr s'interroger sur l'autonomie. Quel lien entretient-elle avec la dépendance et quels en sont les enjeux ? Et pourquoi ce titre, le mythe de l'autonomie ? Je rythmerai l'intervention en plusieurs temps. Dans un premier temps, quand on parle d'autonomie dans le monde de la santé, de quoi parle-t-on ? Quels sont ses liens avec la dépendance ? Et puis on évoquera ses rapports avec la mort, autonomie jusqu'à la mort. Tout d'abord, je rappellerai quelques définitions. Alors c'est un temps qui est un petit peu lourd, mais qui m'a semblé nécessaire en introduction. Parle-t-on de la même chose ? Alors j'ai repris la définition du mythe, qui vient du grec mythos. C'est un récit populaire qui met en scène des êtres surnaturels dans lesquels se projettent les souvenirs fantasmés d'événements vécus par un peuple ou des structures sous-jacentes. La deuxième acception du terme, c'est une allégorie philosophique qui est destinée à symboliser certains traits de la destinée humaine. Ils sont transmis de génération en génération, donc liés à la filiation, à la mémoire collective, à une culture. Et ils sont présents dans notre langage. Ils sont sollicités pour leur efficacité opératoire et permettent d'évoquer ce que l'on perçoit. Il est une maladie neurologique complexe, fréquente, où ce langage métaphorique est parfois sollicité. Je veux parler de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie atteint la mémoire et toutes les fonctions supérieures qui opèrent comme une métamorphose sur la personne malade qui ne semble plus reconnaissable. Certains soignants évoquent le récit mythique comme le mythe de Narcisse pour le docteur Maisondieu. Narcisse est séduit par son image reflétée dans l'eau, alors que la nymphe Écho est incapable de le détacher de sa contemplation malgré la puissance de son amour pour lui. C'est une façon, à côté de la définition des conceptions médicales, d'attirer notre attention sur la reconnaissance ou non-reconnaissance de ces patients qui sont nos semblables. Alors, le mot dépendance, je vais reprendre la définition de l'OMS. C'est l'impossibilité partielle ou totale de réaliser sans aide les activités de la vie courante, qu'elles soient physiques, mentales, économiques ou sociales. Il est précisé qu'un sujet peut être dépendant tout en exprimant son autonomie, c'est-à-dire qu'il conserve le choix de la gestion et des moyens de son assistance. Par autonomie, l'OMS définit la capacité de droit d'une personne à choisir elle-même les règles de sa conduite, l'orientation de ses actes et les risques qu'elle est prête à courir. Cela présuppose une capacité de jugement. Nous voyons très vite que tout événement pathologique peut entraver cette aptitude à prendre des décisions effectives et cohérentes. En gériatrie, en fait, je suis médecin gériatre, nous évaluons les pertes d'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire pour celles qui concernent les activités de la vie quotidienne. Une définition rapide du handicap. La définition a été reprécisée en février 2005. Est un handicap toute limitation d'activité ou restriction à la participation de la vie en société par une personne en raison d'une altération substantielle, durable, définitive d'une de ses fonctions sensorielles, mentales ou cognitives. Le handicap, c'est le résultat des difficultés d'un individu qui est confronté à son environnement. On voit très vite qu'on peut faire l'amalgame entre autonomie et dépendance. Alors, un petit peu d'histoire. Dans les années 70, c'était l'adjectif « dépendant » qui était devenu un qualificatif pour parler des personnes qui étaient en situation d'incapacité. Et on a voulu remplacer les qualificatifs de grabataire et d'invalide. Puis, l'adjectif dépendant s'est substantivé et est devenu la dépendance en 1985. La dépendance est passée au journal officiel et dans le journal officiel de 1985, on a un glissement sémantique entre le mot dépendance et le mot autonomie, qui va se définir comme l'incapacité pour une personne d'effectuer les actes de sa vie quotidienne dans son environnement habituel. Là, il est discerné l'autonomie fonctionnelle et l'autonomie décisionnelle. Donc, l'autonomie fonctionnelle, c'est celle des actes de la vie quotidienne avec son environnement, tandis que l'autonomie décisionnelle, c'est la capacité à décider par soi-même des règles de sa conduite. Je ne vais peut-être pas empiéter sur le terrain de Jean-Noël, mais je rappelle la définition de Kant, qui est la capacité de se donner à soi-même ses règles, c'est-à-dire d'obéir à la raison et à la conscience morale. Ceci est universalisable. Il y a donc un risque de contresens. On ne parle plus de dépendance maintenant, on parle par exemple de l'aide personnalisée à l'autonomie. Alors, et puis le ministère des personnes âgées et de la dépendance en mai 2012 est devenu le ministère délégué aux personnes âgées et à l'autonomie. En effet, dans le mot dépendance, il y a l'idée que l'on a besoin d'une aide, d'une personne, de quelque chose, ce qui exprime l'idée d'une solidarité, d'une relation qui, aux autres, qui nous rend nécessaires les uns aux autres. On peut quand même rappeler qu'historiquement, le mot dépendance, ça veut dire qu'on est sous l'autorité, la domination, l'emprise. Il y a une connotation donc d'assujettissement, de servitude, de subordination. Le philosophe Jean-Philippe Pierrot, dans un ouvrage collectif sur la maladie d'Alzheimer et autonomie, va s'interroger sur la valorisation sans précédent de l'autonomie. Pour lui, cette maladie-là, elle est emblématique de la chasse à la perte d'autonomie. Et c'est vrai qu'en pratique, on a des grilles d'évaluation qui nous permettent sans cesse d'évaluer cette perte d'autonomie. Il faut remarquer que la modification de la relation de soi n'est plus régulée par ce qu'on appelait avant le paternalisme médical. Il nous fait remarquer que l'autorité des traditions faisait que chacun avait sa place, liée à sa discipline et à son statut. Voulant délivrer le patient d'une posture infantile, sont alors arrivés le consentement éclairé, la désignation de la personne de confiance signant la fin de l'autorité médicale. Ainsi, l'autonomie devient le rempart qui introduit le sujet chaque fois que la biomédecine est tentée de l'objectiver. Donc, est autonome celui qui peut honorer ses promesses et a la possibilité de passer des contrats. L'autonomie est donc généralisée et la socialité exige de chacun des compétences qui sont celles d'agir, de prendre des initiatives et il faut que l'individu agisse comme l'entrepreneur de sa vie. La socialité ne relève donc plus d'une obéissance disciplinaire ou d'exercer des ordres, mais plutôt de prendre en charge ses problèmes. Ainsi, l'autonomie est véhiculée au détriment de la dépendance depuis les années 75. La dépendance est dénigrée avec la stigmatisation de la vieillesse dépendante comme représentant un coût qui oblige chacun à s'assurer individuellement contre elle. Elle devient un risque pour la cohésion sociale et en même temps la nécessité de se prendre en charge individuellement. Donc on voit bien que en fait notre société elle est écartelée entre l'individualisme et l'obligation de solidarité. À l'heure actuelle, il y a une idéologie sociétale dominante qui fait qu'un individu doit être souverain, autonome, obligé d'être libre et sommé d'avoir un projet de vie. On a souvent un projet de soins, un projet de vie. Donc, cette réflexion nous amène à regarder que, en fait, dans la relation soignante, il ne se passe pas toujours comme ça. Elle est fondée sur un pacte de confiance et qui sollicite, qui repose sur lui-même sur la sollicitude. Il y a des philosophes et des psychologues qui ont chaque fois, en réaction contre cet individualisme, il y a des pensées, des réflexions qui se font. Et là, c'est philosophes et psychologues qui ont conçu un concept de codépendance. Dans la relation de soins, la dépendance ne supprime pas le lien à maintenir. Au contraire, elle l'exalte. Avec le corps à corps, corps du soigné, corps du soignant, il existe, comme le dit le docteur Charazak, qui est psychiatre gériatre, qui travaille auprès des personnes âgées, nous dit qu'il s'établit un nœud sémiologique, c'est-à-dire un ensemble de signes où sont entremêlés l'émotionnel et le rationnel. L'émotionnel a une organisation et une cohérence qui lui sont propres, qu'il nous faut rechercher pour ne pas l'éliminer, mais au contraire l'analyser, la comprendre et la mettre au service du soin. Donc le contact au cours des soins, il se lie à un contact. Et les auteurs, qui sont M. Andrieux et Mme Girardin, nous montrent que l'impact de la dépendance corporelle de la personne n'atteint pas seulement le soigné, mais atteint aussi le soignant. Et il se passe quelque chose entre les corps, ce qu'ils appellent l'intercorporéité. Ça ne nous dit rien de ce qui se passe à l'intérieur, mais ce qui se passe dans cet entre-deux, c'est de l'empathie, ça peut être de la sympathie ou simplement de la chaleur humaine, et qui est à distinguer du geste technique. Cette relation, elle est du tact, elle atteint les parties intimes de la mémoire, du soignant, ses représentations et ses images. Pour illustrer ceci, là, je vais vous parler d'un cas clinique, c'est-à-dire d'une personne âgée, d'un patient âgé de 80 ans qui était atteint d'une maladie de Parkinson, lorsque j'ai travaillé à l'hôpital Lyon-Sud. Donc, nous l'avons accueilli en service de soins longue durée. Et ce monsieur souffrait aussi de multiples escarres. Et les soins étaient devenus très difficiles parce qu'en fait, il se montrait d'une agressivité gestuelle et verbale qui faisait que les soignants avaient des difficultés effectivement à l'aborder, ils frappaient. Il y avait aussi l'intervention de la psychomotricienne et de l'ergothérapeute. Il était si douloureux qu'il n'arrivait même pas à passer, on n'arrivait pas à faire les transferts du lit au fauteuil. Il est vrai que je comprenais peu de choses dans ce qui se passait pour ce patient au niveau de la douleur et j'avais demandé l'intervention d'un confrère neurologue pour faire la part des choses entre cette douleur neurologique ou d'une douleur qui était liée à la dépression. Effectivement, hein, il a reconnu qu'il n'y avait pas que la douleur physique, il y avait aussi une douleur morale. Et on a modifié la stratégie thérapeutique et ce patient nous disait tout le temps qu'il refusait la morphine parce qu'il voulait rester lucide. L'intervention de la psychomotricienne nous a permis de réduire cette agressivité et lui a pu dire qu'effectivement, ce n'était pas tant la douleur dont il souffrait, mais c'était d'être nu et dépendant. Et c'est vrai que cette nudité, il a pu dire donc cette souffrance et cela ne va pas s'en rappeler que dans la culture judéo-chrétienne, la nudité peut être entendue comme une modification d'une relation entre Adam et Ève et leur Seigneur Dieu. Et je cite la Genèse, les premiers temps de la Genèse. « Après avoir mangé du fruit interdit, connaissance du bonheur et du malheur, Dieu les appelle. Où es-tu ? » Adam répond. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nue et je me suis cachée. La relation de confiance était rompue, et à la place s'établit une relation d'extériorité. Adam et Ève ont accédé à la connaissance du malheur et du bonheur, mais ils sont chassés du paradis avant d'atteindre l'arbre de vie. Le soin qu'il s'applique au corps humain atteint non seulement l'objectivité, c'est-à-dire la maladie, la cause du mal, mais aussi la subjectivité, c'est-à-dire les effets vécus sur le sujet. Et prendre soin de quelqu'un donc, n'est pas une précaution de principe, comme un acte, mais c'est un acte qui engage concrètement, à travers des gestes et des paroles, et une communication sur le corps, entre le soignant et le patient, qui rend des effets de la même manière. Il s'agit pas de il s'agit bien de défendre en fait l'idée que soignant soigné dépasse la notion de réciprocité. Et qu'en fait, j'ai bien aimé ce qu'a dit monsieur Valdon, qui a parlé de cette approche, mais qui est propre à chacun de nous. Il y a toujours quelque chose de raté, d'approximatif et de frustrant dans la communication, parce que les limites structurelles sont aussi des moyens de comprendre que dans la communication, il reste toujours l'autre qui est inatteignable. Chacun a sa part d'énigme. Le philosophe Eric Fiat va reparler du toucher et remarque que l'on peut louer le génie de la langue française qui parle du respect de la pudeur et de l'intimité comme d'un pacte grâce au mot tact. Parce que le tact, c'est une manière de toucher sans insister, de respecter cette qualité proprement rétractile qui caractérise le pudique. Toucher avec tact, c'est toucher sans toucher, mais faire comprendre qu'on ne touche pas un corps humain comme on touche n'importe quel corps physique. Ce patient était donc en grande situation de fragilité. Il va mourir quelques mois plus tard, des suites de complications de ses affections. Et chaque fois, quand je vois les soignants autour, et les soignants qui soient professionnels ou non, en consultation, je me dis que cette fragilité, elle semble agir comme un point de gravité sur lequel on prend appui. C'est ainsi que, dans cette relation-là, les philosophes ont développé ce concept de codépendance. Cette notion de réciprocité, on la voit aussi chez un philosophe qui est cher au monde soignant, c'est Emmanuel Levinas, qui nous dit que la relation éthique prend ses racines dans la relation concrète et sensible. Ça, c'est un petit peu le pendant. Les patients doivent honorer notre autonomie avec un universel de raison. Et à l'inverse de cela, peut-être qu'Emmanuel Levinas nous rappelle que nous sommes des êtres faits de sensibilité. Ce qu'il nous rappelle aussi, c'est que lorsque la personne humaine est dans sa faiblesse, et il nous rappelle que lorsque la personne humaine est dans sa faiblesse et sa fragilité, il fait référence à la chair et au sang, qui symbolisent la vie. Et l'expérience éthique, pour lui, elle passe par la chair et le sang, et qui est dans chaque être humain, en partant des besoins de chacun que l'on a, nous, c'est-à-dire la possibilité de jouissance, d'avoir des besoins, et ces besoins-là, on peut les partager. Et la corporéité, pour lui, elle est le foyer de notre exigence éthique. Ce qu'il va dire, c'est que le sujet est de chair et de sang, et dans chaque homme, il y a l'homme qui a faim, qui mange, qui est des entrailles, que nous sommes des entrailles, dans une peau, et qu'on est aussi susceptible de donner le pain de sa bouche et de donner même sa peau. C'est la philosophie de Emmanuel Levinas. Et cette vulnérabilité opère comme un décentrement du sujet, c'est-à-dire ce qui était quiétude et jouissance pour nous devient une inquiétude. Et il y a un mot de la langue française que j'aime, que nous apprécions, c'est le mot sollicitude, qui vient du latin sollicitus et qui veut dire que nous sommes anxieux, qu'on a du souci, qu'on est troublé, qu'on est inquiet. En réponse à ce mot, il y a un autre mot que j'ai entendu lors d'un cours de philosophie éthique médicale que j'ai retrouvé, c'est le mot solacier, qui est un très vieux mot qu'on retrouve dans le littré, qui veut dire soulager et consoler. On pourra rediscuter éventuellement de la philosophie du care qui s'emboîte dans ce mot sollicitude, en tout cas en français. Mais bon, on l'utilise depuis de nombreuses années. En conclusion, donc, on a vu qu'il y avait un glissement en fait, des termes entre dépendance et autonomie, et que la dépendance, elle appelle le lien. L'autonomie, elle doit nous convier quand même à une utilisation plus prudente, car il ne faut pas confondre que nous, on scinde l'autonomie fonctionnelle et l'autonomie décisionnelle. Autonomie jusqu'à la mort. La sociologue Céline Lafontaine, dans son livre « La société post-mortelle », nous convie à utiliser avec prudence le mot « autonomie ». Et en particulier, elle nous méfie, elle, de faire l'amalgame entre autonomie et dignité humaine. Alors, premier temps, c'était la dépendance et autonomie. Deuxième temps, autonomie et dignité humaine. Pour elle, la notion d'autonomie était défendue par les tenants de la mort volontaire, qui faisait un amalgame entre l'autonomie subjective et le concept de dignité humaine. Elle nous rappelle que la dignité est le fondement des droits de l'homme et de l'humanisme kantien, et que c'est une qualité qui est intrinsèque à la personne humaine et qu'elle n'est en aucun cas aliénable à quoi que ce soit. L'humanité est elle-même dignité, quelle que soit la condition physique ou psychologique d'un sujet. Pour elle, les partisans des mouvements favorables de la mort volontaire contribuent à une redéfinition de nos notions de dignité, d'autonomie, et à laquelle la condition de dépendance paraît de moins en moins acceptable. De la naissance à la mort, la vie humaine est impossible sans le lien de dépendance réciproque. Et cette dépendance réciproque, elle relie les générations entre elles. Il y a un état de dépendance qui relie tout être humain par rapport à sa communauté, au risque de nier sa véritable autonomie. Elle insiste aussi sur le fait que la conscience de la mort, la reconnaissance de la finitude, relève d'un état de dépendance à partir duquel on peut se développer notre subjectivité. Pour elle, la volonté de contrôler la mort est en fait une réalité qui est purement individuelle et qui relève de l'illusion, parce que la mort, elle n'est pas subjective. Elle est la limite qui lie le sujet au monde. Et pour elle, il y a une confusion de la société entre le lien social et l'individu. Le retour à la mort avec le vieillissement de la population fait que l'idéal d'autonomie se retrouve devant une impasse. Pour elle, l'autonomie dont il est question peut être l'occasion historique de reformuler nos symboliques de vivre ensemble, en fait. Elle prend aussi l'exemple de la crémation, où la mort devient privatisée. Les législations ont changé en France, mais ceci est aussi souligné par Jean-Marie Guelette, théologien, qui dit qu'effectivement, le grand danger de laisser le deuil à des pratiques de la vie privée fait que la mort n'appartient plus à la société. Et en refoulant jusqu'à la négation le lien qui rattache l'individu à l'ensemble des vivants et des morts, celui-ci en vient à oublier que l'autonomie n'est possible qu'en reconnaissance de l'état de dépendance sur lequel repose notre existence. Nous arrivons au terme de notre propos, au cours duquel notre entretien a voulu aborder deux choses. La grande prudence qu'il fallait, quand on parle de l'autonomie, on tend à évoquer l'individu, et la dépendance nous rappelle que nous sommes des êtres en relation. Et le soin ne vient-il pas au secours de l'individu pour lui rappeler qu'il est un être dépendant ? À ce propos-là, je voulais juste citer dans les contemplations, il y a Victor Hugo qui disait « Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi !» Prenez soin de vous, je vous remercie de votre attention.
Bien, il ne me reste plus grand-chose à dire. Parce que je crois que Pascal a bien dresser en fait le programme de notre travail. Qu'est-ce qui est en jeu dans le soin et comment une certaine image de l'homme qui nous est devenue familière, c'est-à-dire celle de l'agent calculateur autonome, est impuissante à rendre compte de la relation de soin la plus simple et la plus essentielle. Et c'est pourquoi je trouve qu'on a bien choisi le premier sujet. Donc la notion même d'autonomie, elle mérite d'être éclairée. La difficulté, en effet, tient au traitement de toute question sous l'angle du droit par notre société. Et même, donc, la question du soin. Or, le droit, c'est ce qui vaut pour un sujet libre, rationnel, égal aux autres, capable de projet, comme l'a bien rappelé Pascal, chacun est sommé de rendre compte de son projet. Il y a même projet parental, projet de vie commune, projet d'entreprise. Enfin, qui mettrait un euro dans la journée à chaque fois qu'il entend le mot projet de côté serait riche à la fin de la journée. Or, une telle situation qui met en relation des agents calculateurs autonomes, en fait, est une fiction qui n'a pratiquement jamais lieu, sauf dans le cas assez virtuel du contrat. Et encore, quand il s'établit un contrat, il y a sûrement des relations bien plus complexes que celles de deux agents calculateurs autonomes et informés qui établiraient donc un échange sur la base d'un accord. Donc il n'y a guère que l'image du contrat qui justifierait que le lien humain soit celui de deux calculs. D'ailleurs, cette image du contrat est dominante. Elle nous vient d'un malentendu sur le contrat social de Rousseau et de l'idée donc que tout lien humain serait contractuel. On entend même des parents dire à leurs enfants « I have a deal, j'ai un contrat avec toi ». Le gamin sait très bien que c'est complètement faux puisque le père, lui, est complètement dépendant et qu'il a les moyens de faire souffrir son père. Et donc, vous pouvez toujours dire à votre enfant « j'ai un contrat avec toi ». Le moutard, lui, sait qu'il a parfaitement les moyens de vous faire souffrir. Et le contrat est complètement détruit dès le départ. Et pourquoi a-t-il les moyens de vous faire souffrir ? Ben parce que c'est celui qui aime le plus, qui dépend le plus. Et alors après, il s'agit de savoir quel est celui qui fera souffrir l'autre. Mais on est bien loin de pouvoir établir un quelconque lien social sur une base contractuelle. D'ailleurs, rien n'est plus étonnant. On est entre nous, on a le temps de s'étonner. Rien n'est plus étonnant que la déclaration universelle dite des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit, ils sont nés adultes et ils mourront célibataires. Parce que chacun d'entre nous porte le souvenir d'un salut initial. Nous serions tous ici morts s'il n'y avait pas eu des mains pour nous recueillir, que ce soit sur un tas d'ordures ou dans un hôpital. Et notre vie a d'abord été recueillie, accueillie dans une vulnérabilité extrême. Et donc nous naissons liés d'une dépendance qui certainement dit quelque chose de profond sur notre condition. Est encore plus étonnant le mot de Jean-Jacques Rousseau, qui d'ailleurs a servi de modèle à la Déclaration des droits de l'homme. « L'homme est né libre, dit Jean-Jacques Rousseau, et partout il est sous les fers ». Voilà, donc la question vient de ce que la primauté donnée au droit renvoie donc à l'archétype d'un sujet autonome. Il convient donc de s'intéresser à ce que signifie autonomie. Alors Pascal l'a rappelé, le mot autonomie est un mot qui a trouvé sa principale manifestation dans l'œuvre d'Emmanuel Kant. Et l'autonomie, donc, c'est la capacité de se donner sa propre loi. C'est intéressant. Cela vient de Rousseau, qui nous dit que être libre n'est pas vivre sans loi, mais être libre, c'est se donner sa propre loi. Une loi étant en quelque sorte, le serment qu'un sujet se donne à lui-même de ne pas revenir sur sa volonté. Donc une loi, c'est ce qui nous permettrait de vouloir d'une manière non contradictoire, de vouloir d'une manière constante, de vouloir d'une sans revenir sur notre volonté, ce qui suppose évidemment que cette volonté soit parfaitement lucide sur elle-même. Parce que se donner sa propre loi, si c'est pour revenir sur ce que j'ai dit, c'est pas une loi, c'est un caprice. Ah, donc l'idée d'autonomie devient assez grave là. C'est-à-dire je me donne ce qui scelle à jamais l'unité de ma propre vie sous la forme de ce que l'on appelle un devoir. Ce que l'on appelle un devoir, c'est précisément que ma liberté est source d'obligation. Et ma liberté est source d'obligation pour quelqu'un qui veut être libre sous la forme de la cohérence. C'est pourquoi Kant nous invite à bien distinguer les notions d'indépendance et d'autonomie. L'indépendance est purement négative, c'est ne pas être lié à, ne pas voir son destin suspendu à la décision d'un autre. L'autonomie, comme nous le disions, c'est la capacité de se donner sa propre loi, mais de se donner, il faut être sérieux, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur l'autonomie, de se donner sa propre loi sous la forme d'un devoir. Cela tient au fait que, alors la réflexion s'est développée tout au long du 18e, mais on va faire de l'histoire ici, cela tient au fait que la liberté, le vœu de la liberté, la quête de la liberté, nous conduit à souhaiter d'obéir à une loi et non pas à un homme. Il y a une grande idée qui apparaît et qui culmine au 18e, c'est que dans une société juste, on obéirait à une loi, on n'obéirait pas à un homme. J'obéis pas à mon chef, j'obéis à la règle. L'obéissance aux hommes entraîne la flatterie, la dissimulation, les politiques de cour, les rondes jambes, et donc entraîne tout un cortège de dépendance et d'humiliation consentie. Alors que l'obéissance à une loi a quelque chose d'émancipateur par rapport à la dépendance aux hommes, puisque je ne peux pas faire de caprice devant une loi. Je peux faire un caprice devant un homme, je peux me brûler par terre, je peux pleurer ou le menacer. Devant une loi, je ne peux pas faire de caprice et donc je suis conduit à vivre en sujet libre qui n'a plus besoin de craindre ni de flatter, puisque la crainte et la flatterie sont réciproques. Ainsi, le sujet moral est libre d'une liberté sans dette à quoi que ce soit d'antérieur. Rien ne le précède. Et c'est le vœu de l'autonomie, c'est vraiment le vœu d'une liberté sans dette. Ce qui fait difficulté, car être né est déjà en soi une dette. Tout ce qui relèverait de ce qui est antérieur, c'est pour ça que je disais que ces gens-là sont nés adultes, tout ce qui relèverait de ce qui est antérieur à mon acte de volonté apparaîtrait comme soit dépourvu de sens, ma naissance, mon corps, mon sexe, ma nation, la langue dans laquelle je suis, c'est antérieur à ma volonté, je ne lui dois rien. Soit, pire encore que dépourvu de sens, comme une dépendance insupportable, qui supposerait que le sujet autonome puisse réviser sa naissance. C'est un peu difficile, mais enfin, il peut se suicider, ce qui est une manière de réviser sa naissance. Réviser son corps, le reconstruire, le modifier, l'assimiler à une matière malléable, soumise à l'exercice de sa volonté. Si bien que, alors ne parlons pas bien entendu de la relation à Dieu qui devient assez énigmatique pour un sujet qui veut vivre une liberté sans dette. Ça permet au passage de souligner que quelque chose que Pascal Rebaudet a évoqué, c'est que il faut prendre garde qu'une philosophie de l'autonomie, au fond, est une philosophie qui ignore le corps. Ce qui est quand même embêtant pour une époque qui se prétend être la grande redécouverte du corps. Alors ça, moi, j'en crois pas un mot du tout. Mais en tout cas, ce qui est embêtant pour le monde du soin, qui, lui, a essentiellement affaire au monde du corps. Kant appelle hétéronomie, donc opposé à autonomie. Kant appelle hétéronomie, donc la disposition d'une volonté qui puiserait sa loi en dehors d'elle, dans des intérêts matériels ou pratiques qui feraient que sa volonté est suspendue à des conditions. J'évoque juste en manière presque de plaisanterie, parce que vous avez tous quelques souvenirs scolaires de l'impératif catégorique. Rappelons ce qu'est l'impératif catégorique et qui a fait sourire beaucoup de lycéens. L'impératif catégorique se distingue de l'impératif hypothétique. L'impératif hypothétique, c'est celui qui dit « si tu veux, alors tu dois ». Si tu veux rester en bonne santé, alors tu dois ne pas boire d'alcool. Tu ne dois pas boire d'alcool. Ou si tu veux rester en bonne santé, alors tu dois faire du jogging. C'est-à-dire que c'est lié à une condition extérieure. Si tu veux rester en bonne santé. Une sorte de dette. L'impératif catégorique est celui qui pourrait dire « tu dois », sans avoir à suspendre ça au succès ou à l'insuccès d'une situation conditionnée. Donc, ce qu'il y a de très beau dans l'idée d'autonomie telle que Kant l'affirme, c'est que c'est vraiment, de la manière la plus cristalline, la plus pure, la plus élevée, la volonté d'atteindre la liberté autofondatrice qui serait indépendante de toute condition. Tu dois. Remarquez bien au passage, quelque chose de très intéressant, c'est que le maximum de la liberté ne consiste quand même pas à dire « je veux ». Marrant, hein ? Le maximum de la liberté consiste à dire « tu dois ». C'est-à-dire que la liberté est précisément la capacité de se donner une loi. Et que cette loi, c'est la liberté qui revient sur elle-même, en quelque sorte, sous forme d'obligation. C'est ce que je me dois à moi-même. J'ai insisté sur l'idée d'une liberté sans dette. Eh bien, ce que je me dois à moi-même, c'est d'être un homme cohérent, capable de dire la vérité et de tenir ses serments. Telle est, d'ailleurs, l'idée de dignité. Car c'est Kant qui lie l'idée de dignité et l'idée d'autonomie. Qu'est-ce que la dignité chez Kant ? La dignité, c'est justement ce qui caractérise un être que l'on ne peut pas identifié à une condition extérieure, un être qu'on ne peut ni mesurer, ni évaluer, ni prendre comme un objet. La dignité, c'est l'affirmation, là encore maximale, de la qualité du sujet. Touche pas à mon pote. On ne touche pas à un sujet. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire à son titre, à son argent, à son âge, à sa condition, à sa race, etc. Où l'on retrouve la même volonté d'atteindre une liberté inconditionnée, voilà, indépendante de son sexe, indépendante de sa race, indépendante de son âge, indépendante de sa condition de fortune. Et donc la dignité est bien résumée par cette superbe pensée de Malraux. Un homme ne vaut rien, parce que rien ne vaut un homme. Donc quel est le prix d'un homme ? Si on fixait le prix d'un homme, on violerait précisément sa dignité. Au passage, petite plaisanterie de mauvais goût, si vous voulez savoir quel est le prix d'un homme, vous n'avez qu'à lire les journaux, parce qu'on y voit quelle honte, il assassine une petite vieille pour 15 euros. Je n'ai jamais lu quelle honte, il assassine une petite vieille pour 15 millions d'euros. Donc on doit avoir le moyen de voir quel est le cours de l'homme. Quel est le cours de la petite vieille et à partir de quand on trouve scandaleux de mettre à mal la vie de quelqu'un pour une certaine somme. Et alors l'hypothèse sous-jacente à tout cela, c'est que des sujets autonomes, rationnels, capables de se donner à eux-mêmes une loi indépendamment de toute condition extérieure, seraient évidemment des sujets qui, l'un à l'égard de l'autre, peuvent vivre précisément en paix. C'est vrai. Si nous étions des sujets absolument souverains, autonomes, et capables de percevoir que nous sommes infiniment respectables, nous vivrions en paix, car tout le monde vivrait sur le registre « ne touche pas à mon pote ». Et donc, c'est ce que Kant appelle le règne des fins, c'est-à-dire une société dans laquelle tous agiraient comme sujets égaux parce que inconditionnés. Au passage, il faut bien entendre ce que l'on dit quand on dit que les hommes sont égaux. Jamais l'affirmation selon laquelle les hommes sont égaux n'a signifié qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Égaux, ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas comparables, qu'ils sont incomparables l'un à l'autre, qu'ils sont uniques. Et donc, si des hommes se comportent véritablement les uns vis-à-vis des autres comme des sujets uniques et incomparables, alors ils sont dans la pleine situation d'égalité d'êtres autonomes qui peuvent coopérer à une volonté générale indépendante de tous les intérêts, de toutes les particularités liées aux conditions de sexe, de fortune, de race, d'histoire, etc. Et donc à l'horizon, c'est celui d'une république parfaite qui serait donc le règne des fins où coexisteraient que des êtres également dignes et autonomes. Évidemment, une telle morale qui a quelque chose de sublime et qui fait la toile de fond encore de nous, de notre culture, une telle morale s'oppose, Pascal l'a rappelé, à une morale de l'obéissance, de l'allégeance, de la hiérarchie par rapport à une autorité, par rapport à une tradition, par rapport à une famille, etc. D'où la modification considérable du sens du mot « devoir ». Parce que dans la mentalité kantienne que j'ai rapidement décrite, en très rapide mais non point faux, le devoir, c'est ce que le sujet se doit à lui-même. Alors que dans la tradition classique, le devoir, c'est l'office. C'est mon office. Bourreau fait ton office. Et donc c'est la tâche, la charge, qui correspond à ma place. De telle sorte que dans une morale que j'appellerais ici morale de l'office, le fait d'obéir, par exemple, est honorable. Dans un monde aristocratique, il y a un honneur à obéir. Et il y a un honneur à être placé dans l'allégeance à une autorité supérieure et elle-même digne de respect. Pourquoi alors avoir choisi de parler de l'autonomie comme d'un mythe ? Alors c'est un mythe au sens où effectivement c'est le récit collectif sur lequel nous sommes tous d'accord. Avec comme horizon, effectivement, celui d'une indépendance réciproque de sujets rationnels. Donc c'est un mythe au sens où c'est le discours sur lequel nous sommes tous d'accord. Et c'est un mythe aussi dans le sens où ce discours est sans doute complètement mensonger. Parce qu'il ne dit rien de ce que nous vivons. Nous sommes nés dans les bras de quelqu'un. Nous dépendons radicalement des autres. Par exemple, nous aimons ou nous voulons être aimés. Nos contemporains cherchent une solution pour aimer et être autonome. Et ils ne la trouveront pas. Puisque aimer, c'est pouvoir dire « I need you ». J'ai besoin de toi. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ce qui est vraiment l'idéal de l'autonomie, n'est-ce pas ? Encore faut-il une Harley Davidson. Avoir aimé, c'est se mettre dans une dépendance radicale. Aimer, c'est dire à quelqu'un, maintenant tu peux me faire souffrir. Aimer, c'est dire à quelqu'un, maintenant mon destin dépend de toi. Et si quelqu'un, alors quand je dis quelqu'un, c'est chacun d'entre nous, puisque nous sommes traversés évidemment par les mentalités contemporaines, nous sommes de notre époque. Si quelqu'un voulait aimer sans souffrir, il n'y arriverait pas. Enfin, il n'y arrivera pas, du tout. Puisque c'est précisément se mettre dans la possibilité de souffrir de la part de l'autre. Alors, ceci nous invite à réviser cette notion donc d'autonomie qui, par ailleurs, a une grandeur, n'est pas dépourvue de sens. Hein. Et on voit que cette idée d'autonomie a quelque chose de délirant, bien que parfaitement rationnel. Il peut y avoir un délire de la raison. Et on le voit bien, par exemple, dans les difficultés de la notion de consentement éclairé. La notion de consentement est une des notions les plus difficiles du droit, les plus incompréhensibles du droit. Les juristes ont affaire à des problèmes liés au consentement dans les affaires de masochisme, etc. Que signifie le consentement dans une affaire de masochisme ? Puisque plus la victime crie « non, non, arrête », plus ça veut dire qu'elle est contente. Donc ça devient fou. Et l'idée que les sujets puissent se traiter l'un l'autre comme finalement reprenant chacun ses billes parce qu'il y a eu consentement, est évidemment une idée délirante. Donc la naissance, la maladie, le handicap, la mort... Tout dit qu'il faut recevoir le sens de nos dépendances et qu'une philosophie qui ne donne pas sens à notre finitude est un délire. C'est dommage, parce que vraiment j'aime beaucoup Kant. Mais une philosophie qui ne donne pas sens à notre finitude est un délire. Un délire rationnel, sans doute. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de savoir ce que signifie ma naissance et ma mort. Et ce qui m'importe, c'est de savoir ce que signifie ma corporéité. Et par là même, ma vulnérabilité. Et à ce moment-là, bien plus que de dignité, c'est sans doute d'amour qu'il faut parler. Car il est probable que la dignité est incapable de donner un sens à ma corporéité et à ma souffrance. Alors que l'on peut attendre l'amour que, à défaut de lui donner un sens, il lui donne une présence. En effet, tout soin... Pascal Rebaudet a dit très joliment que nous nous efforçons d'introduire le sujet à chaque fois qu'il y a le risque d'être objectivé. C'était très bien dit. Donc on s'efforce par le droit de réintroduire le sujet à chaque fois qu'il y a risque d'être objectivé. Or le soin, c'est le risque d'être objectivé. C'est vrai, il y a une pratique du soin qui est paternaliste, il y a une manière de parler du patient à la troisième personne, il y a une manière de parler du patient en l'infantilisant, qui correspond à l'objectivation rendue possible par sa situation de dépendance et rendue possible par le pouvoir médical, qui va parler du patient à la troisième personne, en sa présence, et qui va le traiter comme infantile. Il est important de se rappeler, à travers cet épisode du paternalisme radical médical dont on n'est pas complètement sorti, il convient de se rappeler que tout soin comporte la possibilité d'une violence, d'un viol. C'est d'ailleurs ce qu'évoque très bien l'exemple pris de ce monsieur qui a une difficulté à se trouver tout nu. Il n'y a pas de soin sans possibilité d'un viol, d'une intrusion. Et ce qui est en jeu à ce moment-là, ça n'est pas l'affirmation du droit ou du consentement éclairé, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui est plus de l'ordre de la sollicitude, mot effectivement plein de sens, que du droit. Que serait un soin sans sollicitude? Un soin sans sollicitude peut être un droit. Il est un droit. Il est ce à quoi j'ai droit. Je n'ai pas droit à la sollicitude. J'ai droit aux soins. Et je peux donc très bien considérer que j'ai fait mon boulot quand j'ai réalisé le soin conformément au protocole, aux bonnes pratiques, quand l'éthique se réduit aux bonnes pratiques. Bien que les bonnes pratiques puissent effectivement faire partie de l'éthique. Donc, on comprend mal comment des agents autonomes soucieux d'affirmer donc leur autonomie pourraient se laisser toucher. Donc Pascal Rebaudet rappelait les réflexions sur le toucher, en particulier celle de Lévinas, donc je ne reviendrai pas dessus. Le soin est caractérisé, selon Frédéric Worms, qui nous a donné en prime, ici, le fruit de ses réflexions, avant de les publier. Je ne sais pas s'il y en avait qui étaient là. Une conférence éblouissante de Frédéric Worms, qui a fallu que j'arrache à ses travaux pour qu'il vienne, parce que la veille, il m'avait dit « je viens pas ». Et donc, il était en train de travailler à son bouquin et il nous a donné en prime sa réflexion qui, je crois, très précieuse. Vous avez vu qu'il est rentré au Comité national d'éthique. Il y a parfois des bonnes nouvelles. Et Worms caractérise le soin par quatre traits. Le premier trait, c'est celui de la sollicitude, c'est-à-dire précisément se laisser toucher. Se laisser atteindre par. Ne pas passer sans voir. Or, nous passons sans voir. Comme ceux qui passent à côté du blessé, à l'exception du bon samaritain. Et donc, la première dimension du soin, c'est l'attention, la reconnaissance de la détresse de l'autre, de sa précarité, de son besoin, de sa dépendance. Qui nous pèse. La deuxième caractéristique du soin, c'est le souci. C'est-à-dire, je peux avoir de la sollicitude, mais ne pas me soucier d'eux. Il y a des pitiés qui sont épouvantables. Et le souci, ça consiste à s'imputer la tâche. J'y vais. Je prends le souci d'eux. Je prends sur moi d'eux. Et il ne suffit pas d'être apitoyé, encore faut-il se donner à soi-même précisément comme tâche, comme devoir. Mais alors, vous voyez, tâche, devoir au sens de tâche, devoir au sens d'office, vous voyez, et pas du tout au sens kantien. L'office, c'est mon office. Je vois une charrette embourbée, c'est moi qui vais la tirer. J'attends pas que quelqu'un vienne la tirer. Je peux dire, oh là là, les pauvres gens, ils sont embourbés. Sollicitude. Qui c'est qui va s'y coller? Moi. Et à ce moment-là, je m'impute la tâche. Non pas sous la forme d'un devoir abstrait et inconditionné, mais au contraire absolument conditionné, dans la singularité absolue de cette situation. Parce que si ça se trouve, une autre charrette, je ne la regarderai même pas. Troisièmement, le soin est caractérisé par le soutien. Premièrement, il est caractérisé par la sollicitude. Deuxièmement, par le souci. Troisièmement, par le soutien. C'est-à-dire que le soin est adressé. C'est une caractéristique fondamentale du soin que d'être adressé à, destiné à. Par exemple, la question se pose dans le monde hospitalier, je prends un exemple simple parce que j'ai eu à le connaître un peu, travaillant avec des cuisiniers, la manière de distribuer le repas dans le monde hospitalier. Est-ce que le plateau est adressé à ou est-ce qu'il est posé? Et il y a soin à partir du moment où il est adressé à. C'est-à-dire que la personne est reconnue à travers le geste, même si ce geste est par ailleurs techniquement identique, qu'il soit adressé ou qu'il ne soit pas adressé. Et c'est pourquoi, quatrièmement, Frédéric Worms dit que le soin ultime est donc la sollicitude, le souci, le soutien, et c'est le salut. C'est le salut, c'est-à-dire que le soin ultime est de... Ah, le mot est trop prétentieux, mais de donner sens à la situation. Car ce dont le patient souffre le plus, et dans le cas présenté par Pascal Robaudet, ça se voit bien, c'est au fond de l'absurde de sa situation. Et donc, un soin ne va pas jusqu'au bout de sa recherche s'il n'est pas en mesure de donner sens. Nous sommes donc loin de l'idéal de l'autonomie qui ne permettrait pas de comprendre. Donc l'idéal d'autonomie est une sage précaution du point de vue du droit. Mais le droit ne nous fait pas vivre ensemble. Le droit gère nos désaccords. Il ne nous permet pas de vivre ensemble. Il nous dit comment ça se passe quand on n'est pas d'accord. Comment prévoir qu'on peut ne pas être d'accord. C'est prudent. Mais nous, on ne vit pas ensemble grâce au droit. D'ailleurs, nous sommes nombreux ici à complètement ignorer le droit, à part deux ou trois exceptions que je reconnais. Et ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. Je vois que même ceux qui sont censés connaître le droit font mine de l'ignorer. Voilà. Quelques réflexions préliminaires. Tout cela étant résumé au fond par l'image, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui a été choisie comme illustration de notre cycle. C'est une de mes petites filles. Et donc, elle est en ce qu'on ne voit pas, parce qu'on a dû détourer le décor, elle est en équilibre sur une barrière. Que fait un gamin? Il se met en équilibre sur une barrière. Mais heureusement qu'il y a des mains derrière qui assurent un certain périmètre. Et c'est ce que nous nous donnons mutuellement, au fond, c'est au moins le périmètre de nos bras.